Dia peixe, baobá da caju, baobá a caju, tu as pêché où? Sur au cyprès, pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent être noyés.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons, la série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. La semaine précédente, nous avions commencé ce 10e épisode spécial avec notre amoureux de la géographie. Cette semaine, je vous propose de continuer à découvrir encore et un peu plus la géographie et le vivant. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs?
Damien Devine, je suis géographe et anthropologue de la nature. Je travaille sur la relation à l'autre, humain comme non-humain, et comment cette relation peut inviter des nouveaux projets de territoire, des nouvelles manières d'habiter la Terre. Et je travaille, on va dire, avec trois polarités de regard, la France, l'Afrique de l'Ouest et le Japon.
Qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant?
J'ai bien envie de vous emmener sur les chemins du Burkina Faso pour répondre à cette question. Parce qu'un exemple vaut mieux que mille mots. Et il y a un homme là-bas qui est prix Nobel de l'alternative 2018. Plus connu pour être l'homme qui arrêta le désert. Toute sa vie, il a planté des arbres aux portes du Sahara. Son histoire commence dans les années 80, lorsque son village est rattrapé par des vents chauds venus du proche Sahara, entraînant sécheresse, famine, si bien que les trois quarts des familles décident de partir du village pour aller chercher dans les grandes villes les espoirs d'une vie nouvelle, quelque part. Yacouba, lui, a décidé de rester, et donc s'est mis à jardiner, s'est mis à cultiver des arbres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Il a planté des arbres en réconciliant trois types de savoirs. Premièrement, des savoirs traditionnels, puisque Yacouba vient d'une lignée familiale, les Sawadogo, c'est son nom de famille, qui était une grande lignée de paysans, et qui veut dire d'ailleurs Sawadogo en moré, la langue des Moti, faiseur de nuages. Les Sawadogo étaient appelés aux quatre coins de l'Empire Moti pour ramener la pluie lorsque cette dernière se faisait trop attendre. Par des mots, par des incantations, dont eux seuls connaissent les secrets. D'ailleurs, petite anecdote, lorsque j'ai passé du temps avec Yacouba pour écrire un livre sur lui, et j'essayais de savoir, tous les jours, quels étaient les mots qui permettaient de ramener la pluie. Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice sur cela. Tout simplement parce qu'en Afrique de l'Ouest, on ne récolte pas avec les lignées familiales. Il y a des connaissances qui ne changent que de forgeron à apprenti forgeron, griot à apprenti griot, faiseur de nuages à apprenti faiseur de nuages. Deuxième type de savoir avec lesquels a composé Yacouba, c'est des savoirs agronomiques. Voilà, donc ça, on a un peu plus l'habitude dans notre logiciel occidental. Toute sa vie, il a observé son territoire, observé les cycles de l'eau, les cycles de la terre, le fonctionnement des insectes. De tout ça, il m'a tiré le meilleur pour optimiser ses pratiques agricoles, pour optimiser la gestion de l'eau, pour optimiser la croissance de ses plantes. Et puis, troisième type de savoir avec lequel Yacouba a tissé, finalement, c'est des savoirs spirituels. Yacouba n'a pas fait l'école coloniale à son époque, il a fait l'école coranique. Et il pratique toujours les chemins de l'islam, et d'ailleurs c'est un cheikh, ces figures inspirantes de l'islam, qui lui aurait dit de planter des arbres plutôt que des céréales, parce qu'au début il avait commencé par planter du céréal, utilisant cette magnifique formule, j'ouvre les guillemets, Yacouba, tu devrais plutôt planter des arbres que des céréales, car les arbres vont servir autant les générations présentes que futures, les arbres sont nattés de patience. La phrase est magnifique, elle se comprend bien d'un point de vue anthropologique, car la patience est un mot qui revient très souvent dans les mondes de l'islam. Pas toujours pour le meilleur, je pense à la situation de certaines femmes dans des communautés musulmanes africaines, où parfois ça crée de très belles choses, à l'image de la forêt de Yacouba, puisque 40 ans après, la biche et les hérissons sont revenus, les villageois se sont réinstallés. On entend de nouveau le griot chanter, le forgeron teinté d'enclume, et des paysans même recultivent le mil, le sorgho, profitant de la forêt de Yacouba comme en rempart face au vent chaud. Si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait cassé la porte, sens littéral du terme, et aurait continué vers le village voisin. C'est parce qu'il est resté sur place, tout en changeant bien sûr sa manière d'habiter le territoire, qu'il a pu sauver le vivant, humain comme non humain. Je vais prendre un autre exemple, français cette fois. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO, les Cévennes, et pourtant, sa biodiversité n'a jamais été aussi en danger, puisque ce qui structurait la biodiversité du sud Cévennes, c'était la culture de la châtaigneraie. Or, du fait des différentes vagues d'exodes ruraux qui ont caractérisé la France, aujourd'hui, 95% des châtaigneraies sont aujourd'hui à l'abandon. Sauver la biodiversité des Cévennes et retourner y vivre en partie. Néanmoins, retourner vivre dans les territoires pour sauver le vivant, ça demande aussi de sortir d'un prêt-à-penser, de modèles de développement un peu tout fait pour les territoires. Ça demande au contraire de puiser dans les singularités de chaque lieu et de comprendre comment on peut faire relation avec le vivant pour créer des équilibres, soit pour aggrader le territoire, qui est le contraire de dégrader. Or, on ne fait pas relation avec le vivant de la même manière sur le littoral breton, qu'en Cévennes ou dans les marais de Saint-Omer, par exemple, pas très loin de l'île, tout simplement parce que c'est pas le même climat, c'est pas la même histoire du lieu, c'est pas les mêmes habitants, c'est pas la même biodiversité. Autrement dit, ça demande de trouver un modèle de développement propre à chaque territoire en fonction de ses singularités. Et poser la question ainsi, ça nous bouscule, ça nous percute en France, parce qu'en France, on est issu d'une certaine histoire politique qui centralise les choses. Un modèle dit jacobin et qui aime bien les recettes toutes faites. On voit comment, finalement, décentralisation et vivant sont des causes très interconnectées. Du moins, si on souhaite que l'humain se réconcilie avec le vivant, alors on est obligé de décentraliser le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir citoyen.
Ce positionnement de dire sauver le vivant, est-ce que ça donne pas un plein pouvoir à l'humain qui est à l'origine aussi des problèmes actuels?
À l'image de Yacouba, il s'est laissé perforer aussi par le non-humain. Point de louer des alliances avec les termites, avec les rochers. Il a strié sa parcelle de rochers pour mieux retenir l'eau, sans savoir qu'il a ramené des dogons du Mali, donc le pays voisin. Au fond, quand on pense la relation à l'autre, à l'échelle des territoires, c'est aussi changer de paradigme en ceci que l'humain n'est pas le seul à faire territoire. L'humain n'est pas le seul à construire des mondes. Le castor, en aménageant son barrage et sa hutte, modifie les cours d'eau. Et en modifiant les cours d'eau, il va influencer la vie d'autres espèces, pour le meilleur comme pour le pire. Un arbre crée un microclimat à ses pieds, qui est propice à des espèces, qui est non propice à d'autres. Penser à la relation à l'autre, c'est métisser la manière de construire les territoires entre l'agentivité des non-humains et l'agentivité des humains eux-mêmes. C'est nouer des nouvelles alliances à l'échelle des territoires, penser à la relation. Ce qu'a magnifiquement fait Yacouba à l'échelle du désert, à l'échelle du Burkina.
Quand je pense au désert qui progresse, penser le désert comme une absence de toute vie, certes la diversité est beaucoup moins importante, mais la vie n'est pas pour autant absente. Je ne sais pas si on peut avoir un jugement sur ce genre de choses, mis à part sur les besoins de l'humain pour sa propre survie. Sauver le vivant, c'est avant tout sauver notre propre espèce.
C'est aussi pour ça que je crois que la beauté et la nécessité du podcast que vous portez, c'est que le vivant me semble être une cause beaucoup plus importante que le climat, pour quatre raisons. La première raison, c'est que le réchauffement climatique, c'est plutôt des projections futures, réelles, bien sûr. On a cette chance-là de vivre dans une époque où on peut modéliser des futurs de manière certaine. Mais c'est difficilement appropriable. Tandis que la chute du vivant, elle est actuelle, on le voit partout dans nos paysages. Du coup, on peut saisir davantage l'enjeu et du coup mettre davantage les gens en mouvement. L'un est conjugué au futur, le climat, l'autre est conjugué au présent, le vivant. La deuxième raison, c'est que, et là je caricature un petit peu, mais tu déforestes une partie de l'Amazonie avec une pelleteuse à panneaux solaires, ça aura zéro incidence ou presque sur le climat, c'est une catastrophe pour la biodiversité. Autrement dit, le climat s'arrange parfois c'est un techno-solutionnisme, enfin, d'approche un peu technique, qui ne remettent pas en cause la manière dont on pense, la manière dont on vit, dans ses fondements. Là où penser le vivant nécessite forcément de nouvelles manières d'habiter les territoires, et du coup de changer nos manières de penser. La troisième raison, c'est que bah, de toute façon, les seuls puits de carbone qu'on connaît aujourd'hui, c'est les forêts et les océans. Sauver le vivant égale sauver le climat. L'inverse n'est pas forcément vrai. Et puis la dernière raison, le climat, c'est finalement une cause très anthropocentrique. Si le climat change, le vivant, il saura s'adapter. Sûr et certain. C'est toujours adapté aux périodes de mutation, de périodes glaciaires à périodes interglaciaires dans l'histoire du vivant depuis le Jurassique. Ce qui compte, c'est la survie de l'humain en tant que tel dans le réchauffement climatique. Là où penser le vivant, ça nous invite en fait à construire une chape philosophique qui permet enfin de dynamiter l'anthropocentrisme dans les sciences humaines et sociales et du coup dans nos manières de faire sonner les sociétés. Penser le vivant est inclusif. Penser le climat ne l'est pas toujours inclusif de tous les êtres vivants. On observe que l'humain crée de la biodiversité. La biodiversité qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle de la planète, elle est créée en partie par l'humain. Pas seulement, mais les milieux les plus riches en biodiversité spécifique qu'il y a en France, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes au mètre carré, c'est des prairies alpines qui sont entretenues en tout cas par la transhumance des vaches et des moutons. Si ces prairies n'étaient pas pâturées, au fond, elles se refermeraient en forêt, sans faire des milieux plus stables, mais des milieux qui sont moins riches en termes de biodiversité. Donc au fond, sauver la diversité du vivant telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça demande de trouver une nouvelle danse entre humain et non-humain, au même titre que sauver la diversité des cultures, qui est également l'un des éléments de résilience, est lié terriblement au non-humain, puisque la diversité du culture est née d'un apprentissage avec un sol particulier, avec un relief particulier, avec des non-humains particuliers. La diversité humaine comme non-humaine est toujours une histoire de rencontre au fond. C'est justement cette capacité à rencontrer l'autre qu'on a perdu dans les sociétés contemporaines.
On va passer à la question d'actu. La semaine précédente, l'épisode spécial Feuille de Chou portait sur le nouveau plan sécurité à la chasse et la signification de cette pratique pour les écosystèmes vivants. Ainsi, les termes de sélection naturelle et d'évolution ont donné à voir la chasse sous l'angle de l'écologie scientifique. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
La chasse, c'est vraiment une question compliquée parce que elle brasse à la fois des questions écologiques et des questions sociales. Sur les questions écologiques, c'est vrai que dans les milieux écolos, on a tendance à être un petit peu anti-chasse, c'est de bonne guerre. Mais l'honnêteté scientifique et intellectuelle force à dire que dans des sociétés qui n'ont pas de dualité entre nature et culture, qui sont animistes, donc qui considèrent les non-humains comme des frères et des sœurs, ça n'empêche pas de chasser, de pêcher, ou en tout cas d'avoir une alimentation en partie carnée. Ce qui change, bien sûr, c'est tous les récits qu'il y a autour de la chasse, de la mort, du dialogue des âmes, etc. Donc, au fond, tout ça pour dire que vivre en équilibre avec le milieu, comme c'est le cas des populations autochtones et chassées, n'est pas forcément contradictoire. Si on revient en France, dans une société duale entre nature et culture, est-il possible de faire de la chasse sans avoir un rapport très violent envers le monde humain ? J'en suis personnellement pas sûr, ou en tout cas, ça dépend des méthodes de chasse. Là aussi, il y a peut-être de la complexité à amener dans le débat entre le chasseur romantique qui revient bredouille 99% du temps, et ce qu'il préfère, c'est de se balader en forêt, à ceux qui font de l'engraissement toute l'année pour être sûr de pouvoir tirer des sangliers à un endroit précis lorsque s'ouvre la période de la chasse. Quoi. Pour l'un, il y a un amour de la nature et une dimension très sensible et onirique qui relie au paysage. Pour les autres, on est juste dans le plaisir de tuer d'une certaine manière. Je pense qu'il y a une distinction à faire à ce niveau-là. Ça, c'était sur les enjeux très écolos. Sur les enjeux sociaux, qu'on ne peut malheureusement pas mettre sous silence, c'est que la chasse, en fait, est issue d'une ancienne classification sociale dans la royauté, qui a toujours aujourd'hui des artefacts, en fait, des reliques. Le fait qu'il y ait le droit au port d'armes et d'autres non crée toujours des distances, finalement, entre les catégories de population. Et ça, je pense que c'est de toute manière une question à traiter aussi dans le futur qu'on donne à la chasse en France.
On va passer à l'agenda. Quel rendez-vous ou référence voudrais-tu nous communiquer ?
En ce moment, il y a deux livres que j'aimerais vous proposer. La première, c'est toute l'œuvre d'Augustin Berthe, un très grand géographe qui va plus loin, que je trouve, que Philippe Descola ou d'autres sur une nouvelle relation entre nature et culture. Il a tendance à être un peu plus théorique, c'est pour ça qu'il est moins connu du grand public. Et puis c'est un grand spécialiste du Japon. Le lire, c'est partir en voyage des monts de l'Atlas, où il est né, dans le sud du Maroc, jusqu'au Japon, où il a fait la plupart de sa carrière scientifique, permettant de comprendre aussi les liens qui structurent humains et non-humains dans d'autres sociétés. S'inspirer des autres sociétés, c'est comme le mobilier du monde, au fond. Ça nous invite à penser que la flèche du temps n'a pas qu'un seul sens. Pour compenser les futurs de nos propres sociétés, on peut aller dans des sens extrêmement pluriels. C'est rassurant, penser ça. Et puis la deuxième référence, c'est lié à notre échange avec Oriente, c'est une philosophe qui s'appelle Gabrielle Alpern, je suis en train de la lire en ce moment. Elle a écrit un livre qui s'appelle Centaure, éloge de l'hybridation. Elle rend hommage à toutes ces identités plurielles qui composent les générations actuelles et elle invite à ne jamais uniformiser une pensée ou une identité, de rendre hommage plutôt justement à la pluralité qu'il y a à l'intérieur de chaque individu, d'où le terme de centaure, qui est une métaphore au fond de ces êtres aux identités plurielles. Ça déplace les choses, ça permet de dynamiter certaines catégories qui nous gênent pour penser demain, ou voir qu'ils sont imposés à nous lorsqu'on veut porter des projets ou s'inscrire dans des territoires. Il faut essayer de s'en affranchir. Et ce livre, Tous Centaures, éloge de l'hybridité, je trouve est un bon mémo pour s'en affranchir. Aller découvrir des territoires. Peut-être que dans un de ces territoires, qu'il soit urbain ou rural, peut-être que vous y trouverez l'envie d'une vie nouvelle.
Tu y as pêché où, baobab, d'acajou ? Cet épisode dans les connexions interspécifiques du vivant prend fin. La semaine prochaine, nous nous rapprochons de celui qui cultive et observe le vivant, cuisiné aux petits oignons.
Tremble, tremble être noyée.